Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Galère au 88.4 FM. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum. Chères auditrices, chers auditeurs, l'état du monde vous préoccupe et les tracas du quotidien aussi. Quelles solutions à nos problèmes globaux et individuels? Comment concilier fin du monde et fin du mois? Comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Chaque mercredi, de 19h à 20h, nous tendons le micro à une personne qui vous propose sa façon de répondre à ces questions, une actrice ou un acteur des transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. L'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation à créer sa juste place du moi au nous et du nous au tout. Je suis Lucille Journe-Moalic, j'ai l'honneur d'animer cette émission pour la toute première fois et je suis accompagnée de Marin Maufray.
Bonsoir et ravi pour cette première émission à tes côtés.
Merci. Et en régie, Claire Mailloux et Mathieu Cheminal.
Bonsoir Lucille.
Bonsoir Lucille, bonsoir à tous et toutes.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélissa, fondatrice et gérante du supermarché La Cigale et la Fourmi.
Bonsoir.
Bonsoir Mélissa. Alors, quand on te rencontre, moi, la première chose qui m'a frappée, c'est ton énergie. Alors, j'imagine que c'est avec cette énergie que tu as créé La Cigale et la Sardine. Alors d'abord, explique-nous, c'est quoi ?
Bah, merci déjà pour le compliment, c'est super sympa. Alors La Cigale et la Sardine, c'est le premier supermarché en ligne sans emballage plastique de notre région. Donc on propose de la livraison sur Marseille et sur l'est de Marseille pour le moment.
D'accord, et donc un supermarché, tu vends quoi comme produit ?
Ben justement, en fait, j'ai longtemps hésité entre le mot épicerie et supermarché et j'ai opté pour supermarché notamment parce que à terme, le but c'est d'avoir vraiment tout ce qu'on retrouve chez nos concurrents de grande distribution, donc dans un supermarché classique. Mais avec une particularité, c'est que c'est énormément de produits locaux et français, et surtout sans emballage plastique.
D'accord. Et est-ce que c'est un lieu physique ou c'est que en livraison ?
Pour le moment, c'est uniquement en livraison. Donc j'ai un entrepôt dans Marseille, et puis de là, je reçois les commandes passées sur le site, et je prépare les commandes. Et ensuite, c'est livré soit sur des points de retrait dans Marseille et Auriol aujourd'hui, soit en livraison à domicile avec un partenaire cyclo-logisticien.
Ah oui, donc ce n'est pas un partenaire en gros camion, c'est un partenaire à vélo.
Exactement.
Tu as aussi un blog sur ce site internet ?
Oui, en fait, sur la page d'accueil, j'ai mis en place un blog. Ça me tenait vraiment à cœur parce que pour moi, ce projet, c'est plus qu'un projet d'entreprise, de commerce. C'est vraiment partager aussi les actions qui se font dans Marseille et autour de Marseille. Partager aussi des astuces, des recettes zéro déchet et faire en sorte que ce soit accessible en fait au plus grand nombre.
D'accord, j'ai vu par exemple un article sur les FADA qu'on a reçu oui. Ici il y a quelques semaines.
Oui, exactement, c'était ma première interview en fait avec Claire justement. C'était super sympa de pouvoir partager cet événement. Et voilà, le but c'est aussi de promouvoir des événements vraiment engagés sur le territoire.
Et j'en profite du coup pour te remercier à nouveau Mélissa pour cet article et aussi pour notre collaboration sur ce bel événement qui a eu lieu à l'Épopée.
Merci ouais. Encore.
Merci beaucoup.
Alors, c'est quoi ton histoire et puis comment ça t'est venu, la cigale et la sardine ?
Alors en fait, moi je suis née à Aubagne il y a 36 ans maintenant, parce que j'ai fêté mon anniversaire il y a 2-3 jours.
Joyeux voilà. Anniversaire !
Merci. C'était dur de passer ce cap-là, mais voilà. Et donc j'ai fait le début de mes études à Aix-en-Provence, en droit. Et après, je suis partie à Paris pour faire de l'archéologie. Ma première vocation, en fait, c'était vraiment de travailler dans la culture, dans les services publics. Parce que j'avais déjà envie de partager, en fait, avec les gens ce que j'avais appris et ce qui, pour moi, était important, la culture. Mais au fil du temps, j'ai un peu dérivé. Je me suis rendu compte que l'environnement, pour moi, c'était beaucoup plus important, qu'il y avait de gros enjeux. Et que malgré les efforts que beaucoup de gens essaient de faire, j'avais l'impression en fait, que ça n'avançait pas, que ça ne bougeait pas. Et donc j'ai voulu contribuer un petit peu à ma façon, avec quelque chose qui touche plus de gens pour moi, en tout cas quelque chose qui est vraiment accessible à tous, à savoir l'alimentation. Et avant de rentrer sur Marseille, puisque j'ai fait un passage donc à Paris et puis après dans les Hautes-Alpes, j'ai beaucoup hésité en fait à revenir ici. J'hésitais à aller même à Grenoble ou à Lyon parce que bah, je savais que dans ces villes, il y avait déjà plus de sensibilité à l'environnement, à la protection de l'environnement. Et pour moi, c'était plus facile en fait d'aller là-bas. Mais en tant que Marseillaise, enfin, que personne du Sud, j'avais vraiment besoin de venir me ressourcer à la maison. Et puis pour moi, c'était vraiment un gros challenge que de venir ici participer à un changement et faire en sorte que à Paris, à Brest ou à Strasbourg, on ne pense plus que Marseille est une ville sale. Et voilà, j'avais vraiment envie de faire ça chez nous et de construire ça chez nous.
Donc il y a un... Vas-y.
Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que le concept de mission, c'est le passage du moi au nous et le nous au tout. Et là, vraiment, tu parles de en fait, pourquoi est-ce que tu fais ça. Et l'image de l'arbre est une image qu'on utilise beaucoup. Et là, en fait, tu dis qu'il y avait un besoin de retour sur les racines, en fait, de là d'où tu viens. Et avec cette réflexion assez lucide de se dire, Marseille, c'est pas la ville qui est la plus facile.
Oui.
En même temps, en fait, elle est à la fois, à mes yeux, hein, en retard, mais aussi très en avance sur certains points, avec énormément d'initiatives dans tous les sens. Et je trouve ça courageux de s'être dit, en fait, non, c'est là d'où je viens, c'est ici que j'ai envie de pouvoir planter la graine de mon engagement, quoi.
Oui, merci beaucoup. Mais c'est vrai que vraiment, ça a été un choix assez difficile parce que, quand j'ai quitté Marseille il y a une quinzaine d'années, on va dire, pour faire mes études, je savais que c'était très compliqué ici. Mais en fait, en revenant, je me suis aperçue que ça avait changé positivement et qu'il y avait beaucoup d'énergie et beaucoup de choses qui ont été faites. Et je suis contente que ce soit passé comme ça. Et voilà.
Et alors, avant de continuer à parler de tout ce qui se passe autour de ce supermarché, du droit à l'archéologie, la culture, à finalement le lait transformé. J'ai vu un truc sur le site où je me suis dit, c'est un super exemple, c'est du lait qui vient de juste à côté, qui est transformé juste à côté, puis qui est vendu jusqu'ici. C'est quoi le fil rouge pour toi ?
Oui, alors le lait dont tu parles, en fait, ouais, c'est ça. En fait, je travaille beaucoup avec des producteurs locaux. Là, le lait, en l'occurrence, il vient d'Oriol. Donc, c'est une fromagerie qui fabrique son fromage blanc, etc., ses yaourts. Et il se sert directement dans le Var, auprès d'une ferme hyper locale. Donc, voilà. La question d'avant, excuse-moi,
C'était donc le fil rouge entre comment tu vas, qu'est-ce qui fait que tu vas faire du droit, puis en fait de l'archéologie, puis en fait vendre de l'alimentation sans plastique.
C'est peut-être prétentieux, mais je crois que j'ai toujours eu envie de sauver le monde, en fait, quelque part. Parce que quand j'ai fait du droit, je voulais m'orienter d'abord dans la politique, mais pas la politique, véreuse, mais vraiment l'idée de faire quelque chose de bien pour faire changer les choses. Ensuite, j'ai voulu faire du droit international aussi pour travailler à l'ONU, à l'UNICEF, des choses un peu comme ça. Et puis finalement, je me suis pris de passion pour l'archéologie, donc, parce que j'ai beaucoup visité de sites gallo-romains dans notre région. Encore une fois, toujours notre région. Alors, je pense que je suis un peu facho, gentille, mais voilà, quoi, j'aime beaucoup ma région. Et donc, je veux la faire vraiment briller aux yeux du monde.
Tu es fière de ta région.
Ouais.
Et du coup, je reviens là-dessus. Donc finalement... C'est pas juste la livraison d'articles de supermarché, c'est ta contribution à cette communauté, à ce territoire que tu aimes. Qui sont les bénéficiaires et toutes les personnes qui entourent ce projet ?
Alors, il y a beaucoup de personnes qui entourent ce projet, même si globalement, pour l'instant, je le porte seule, mais un peu accompagnée de mon conjoint. Mon conjoint, déjà, il m'aide beaucoup. Notamment parce qu'il fait de l'administratif, la compta, et puis niveau technique, il m'aide énormément aussi quand on fait des marchés. À terme, d'ailleurs, j'aimerais bien être associée à lui et bosser avec lui, mais bon, ça, c'est un rêve pour dans un moment. Ensuite, les personnes qui m'entourent, ça va être tout ce qui est maraîchers, agriculteurs locaux, fournisseurs locaux, artisans ou même petites entreprises françaises, parce que j'ai mis à peu près 3 ans à sourcer tous ces produits, en fait, toutes ces personnes. Et donc, j'ai pu rencontrer beaucoup d'agriculteurs, de petites entreprises françaises et régionales. Donc, eux, vraiment, sont un peu un soutien de première heure, en fait, puisque dès le début, ils ont cru à mon projet, ils se sont dit qu'ils allaient participer. Et d'ailleurs, je suis assez contente parce que j'ai aussi bien des petits producteurs locaux que des entreprises un peu plus grandes qui vendent au niveau national et qui sont très engagées. Ensuite, l'un des partenaires importants pour moi, c'est aussi le cyclo-logisticien avec qui je bosse, donc Black Mat Cycles, qui est basé à Noailles, à Marseille, et qui fait les livraisons à vélo. Donc ça, pour moi, c'était vraiment important de choisir un prestataire à vélo pour faire mes livraisons. Ensuite, il a d'autres valeurs que je partage, notamment il mettait déjà en place un système de consigne, donc de récupération des contenants, ce que moi je fais également, donc voilà, ça a beaucoup matché aussi pour ça. Et puis, il salarie ses employés, et voilà, c'est vraiment tout le contraire de l'ubérisation.
Contrairement à une entreprise, voilà. Dire qu'on ne cédera pas, si on peut la citer.
Voilà, donc c'était aussi une valeur que je partageais avec cette entreprise-là, c'est pour ça qu'on s'est choisi.
Et puis, alors ça, pour l'histoire, ces partenaires professionnels, tu les trouves comment ?
Ben, bonne question. Alors, souvent, c'est au hasard sur Internet, je cherche. Après, il y a beaucoup aussi de conseils, parce que ça fait quelques années donc j'ai ce projet en tête et que j'ai donc commencé à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs à travers différentes réunions. Donc voilà, c'est à travers ces réunions qu'on me conseille de rencontrer un tel ou un tel. C'est souvent comme ça aussi que j'ai fait ce réseau et que j'ai rencontré les bonnes personnes.
Il y a un côté chouette où en fait tu cherches les gens qui vont te permettre de faire ton business, et en fait parce que vous êtes alignés dans vos valeurs, il y a un effet de ruissellement positif où en fait tu leur permets de faire leur business aussi.
Oui,
et c'est,
oui, c'est
un vrai partenariat.
C'est un écosystème vertueux.
Oui,
là, tu parlais de cycle logistique. Alors, celui que tu as mentionné, on ne l'a pas personnellement reçu, mais en fait, on a déjà reçu des cycles logisticiens à ce même micro, tout en vélo, et les boîtes à vélo, en l'occurrence la boîte à vélo qui fédère le réseau des cycles logisticiens.
Oui.
Et c'est hyper intéressant de voir comment les sujets se connectent les uns avec les autres, et que finalement, chacun a une part à apporter à cette grande forêt. En tout cas, nous, c'est ça qu'on a envie de pouvoir montrer. Et il y a Lemon Tree, je ne sais pas si c'est eux que tu cites, mais qui font justement aussi cette... Et l'Incassable, qui récupère aussi tout un tas de contenants pour ensuite les retraiter et puis les remettre dans le circuit. Claire, tu voulais participer ?
Bah en fait, j'avais plutôt une question pour toi, Mélissa, parce que qui dit supermarché dit forcément gestion de stock avec tous les partenaires que tu viens de nous citer. Concrètement, est-ce que t'as pas de local puisque tout se fait en ligne, mais tu as un local pour gérer toutes ces commandes? C'est très pratico-pratique comme question. Hein
ouais. Mais effectivement, c'est une très très bonne question qui est compliquée, effectivement. Alors oui, pour l'instant, en fait, j'ai un local. En fait, chez moi, j'ai une dépendance qui me permet de stocker en attendant de pouvoir avoir un plus grand local. Il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas une société matriculée. Je suis chez une couveuse entreprise qui s'appelle Cosens, qui me permet du coup de pouvoir commencer l'activité, de la tester et d'ajuster justement, savoir quel type de local j'aurai besoin dans quelques mois quand j'immatriculerai. Donc pour répondre à ta question, effectivement, j'ai un petit local. Donc comme un supermarché classique ou une épicerie classique, je reçois tous mes produits et je les stocke et les prépare les commandes.
Ok, et c'est donc de là que vient l'entreprise de cyclo logistique qui vient chercher les marchandises et ensuite les livrer directement à domicile chez les clients.
Oui, c'est
formidable.
Ça.
Formidable. Ok, merci.
Et ça fait combien de temps que tu as commencé ?
Alors, j'ai débuté mi-janvier. Donc, j'ai créé le site internet de fin novembre à mi-janvier. Grosso modo, j'ai passé toutes mes journées à faire ça.
Il est très beau.
Merci, c'est gentil. Parce que c'était vraiment hyper compliqué à faire. Et puis, mi-janvier, j'ai mis en ligne. Et voilà, tous les jours, j'essaie d'améliorer le site. Voilà.
Ok, donc en fait, c'est un travail en amont de préparation un peu dans l'ombre monumental, très long. Oui. Et là, ça y est, tu sors du bois. Trop bien. Bravo.
Merci.
Et donc, le dernier bénéficiaire, le dernier personnage de cette histoire, c'est le consommateur ou la consommatrice ?
Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas encore cité. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas uniquement de proposer des produits ou un blog aux consommateurs et tristes. J'ai du mal à parler en inclusif, désolée. Mais c'est de les faire contribuer. C'est-à-dire que là, les premiers clients, l'idée, c'est de les impliquer davantage, en fait, pour qu'ils puissent choisir les produits consciemment, pour qu'ils puissent donner aussi leur avis sur les produits. Voilà, c'est des produits qui leur conviennent pas, qui font pas l'unanimité pour X raisons. L'idée, c'est de supprimer le produit. Et quelque part aussi, avoir des consommateurs plus engagés, c'est aussi une sorte de garde-fou, en fait, pour éviter qu'un jour, je me prenne la tête et que je me dise « Oh non, c'est bon, je deviens comme géant casino ou autre », et voilà, je dérive complètement sur autre chose que le but principal.
Un garde-fou d'éthique ou de morale. Et donc, tes clients, tes consommateurs, tu vas aller chercher où? Comment est-ce que tu les trouves?
Alors, très bonne question là aussi. Je les trouve difficilement pour l'instant. Disons que ça va être beaucoup via les réseaux sociaux, sur Insta, Facebook notamment, dans la presse aussi. Et puis après, ben, régulièrement, j'essaie de faire soit des marchés, soit des stands de présentation. Ou encore une fois, comme tout à l'heure je disais, pour les producteurs, pour les retrouver, j'ai fait pas mal de réunions de réseau entrepreneurs.
Ok.
Moi, j'ai une question. Tu parlais de Causens.
Oui.
Est-ce que avant Causens, tu as été accompagné par un incubateur ou aussi des structures qui t'aident à pouvoir vraiment lancer le projet et le structurer, etc. Ou est-ce que c'est finalement juste avec cette CAE que tu travailles?
Alors non, j'en ai fait même plusieurs, des formations et des incubateurs. En fait, j'ai commencé en 2018 à avoir cette idée d'entreprise. Donc j'ai fait des formations classiques avec les différentes CCI. Mmh. Et puis après, l'un des plus gros incubateurs que j'ai pu intégrer récemment, l'année dernière, c'est les Premières Sud, qui est un incubateur quasi exclusivement féminin, qui m'a donné mes dernières formations et le réseau nécessaire et surtout la force morale et mentale nécessaire pour oser faire le premier pas et devenir entrepreneur chez Causens.
Et alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que on n'en parle pas très souvent, en fait, de ces couveuses d'entreprise pour se lancer. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne?
Oui. Alors, grosso modo, une couveuse, c'est une association qui va prêter, moyennant un abonnement mensuel, qui va prêter donc sa comptabilité, son service de comptabilité, donc son SIRET et tout ce qui est administratif. Donc, ça va permettre aux porteurs de projets de ne pas s'immatriculer tout de suite, mais de bénéficier quand même d'un statut d'entreprise, en fait. Via ça, j'ai pu commencer mon activité et vendre sans être immatriculée. En fait, ça permet notamment d'éviter de faire de gros frais d'investissement dès le départ et de tester pour être sûr de son projet au moment où on immatricule.
Parce qu'il y a aussi un enjeu lié au fait que tu as un salaire en retour, je ne sais pas d'ailleurs.
Alors non, il n'y a pas forcément de salaire. En fait, quand on est en couveuse, l'idée, c'est vraiment de tester, pas de se rémunérer. On peut au mieux, si je ne dis pas de bêtises, on peut au mieux se rembourser les investissements qu'on fait, puisqu'il faut quand même faire un investissement minimal, notamment pour acheter le stock. Mmh. Mais il n'y a pas de salaire. On est toujours, si on a la chance d'être encore en Pôle emploi, on a cette rémunération-là, mais c'est tout. Il n'y a pas de salaire en tant qu'entrepreneur.
Sauf si ça marche, j'imagine. Si jamais ça marche, tu...
Si ça marche très bien, ouais, on peut se rémunérer, mais au bout de quelques petits mois, il faut du coup qu'on sorte et qu'on s'immatricule, en fait. On ne peut pas rester éternellement en couveuse et se rémunérer comme ça.
Et d'ailleurs, il y a une durée de couveuse? Enfin, combien de temps tu peux rester dans cette structure?
Oui, alors généralement, c'est un contrat d'un an, un contrat CAP, C-A-P-E. C'est un contrat d'un an qui peut être renouvelé deux fois. Et puis on peut en sortir à tout moment avec une sorte de préavis, en fait.
D'accord. Et est-ce que comme un incubateur, il y a d'autres structures, d'autres projets qui sont couvés dans cette même couveuse chez Causens, et du coup ça permet aussi de faire une émulation entre toutes ces structures?
Oui, dans chaque couveuse, on est plusieurs entrepreneurs couvés. Et effectivement, il y a tout le temps une mise en réseau, des événements. Justement, j'ai eu rendez-vous aujourd'hui avec ma formatrice de couveuse. Elle m'a encore donné des contacts internes à la couveuse, en fait, qui peuvent m'être utiles pour développer mon activité.
Ouais, hyper, hyper précieux d'avoir tous ces contacts quand on se lance, et aussi d'avoir d'autres humains qui sont dans la même situation et d'avoir des retours d'expérience. J'imagine que ça, quand on est entrepreneur, il faut avoir les épaules. Donc c'est
mais complètement, plus, en fait, c'est exactement ce que tu dis. En fait, au tout début de mon projet, j'étais seule et du coup, c'était assez difficile, assez souvent. Il y avait vraiment des moments down très compliqués. Et depuis que je suis accompagnée, je vois que pour mes collègues, c'est la même chose. Mais ça change vraiment la vie, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, qu'on peut partager des choses qu'on n'ose pas partager avec, chez nous, à la maison, parce que, on sait que la personne avec nous n'est pas forcément entrepreneur et qu'on n'a pas envie de lui gâcher la vie et lui raconter tous nos problèmes tous les jours. Donc c'est vraiment hyper important d'être entouré quand on est entrepreneur.
Puis ça, c'est un retour qui est précieux parce qu'on en reçoit quelques-uns et quelques-unes des entrepreneurs, entrepreneuses, parfois pas au même degré de maturation du projet. Et là, ces émissions de radio, elles visent à mettre en valeur ce qui marche, de dire il y a une forêt des possibles, prenez votre place, regardez, il y a plein de choses. Malgré tout, c'est pas non plus le chemin magique où tout se fait spontanément, facilement. Le fait souvent de donner la parole à des structures qui sont déjà bien implantées, c'est qu'il y a déjà eu tout le chemin. Mais il y a aussi quand on débute, quoi. Il y a quelques semaines, on recevait Luc et Dorian à la radio qui nous parlaient de leur projet qui s'appelle Filia. Et pareil, c'était en plein questionnement avec des questions sur l'orientation, le business model. Et la forêt des possibles elle-même est accompagnée. Donc c'est intéressant aussi de savoir comment est-ce qu'on se positionne, les doutes qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse là-dedans. Et on espère que auditeurs et auditrices qui nous écoutez, on vous invite à choisir cette voie-là quand vous l'avez au cœur, mais aussi avec la lucidité de savoir que sur ce chemin-là, comme tu disais, il y a des hauts, il y a des bas, et avec des bonnes questions à se poser au bon moment aussi. Là, quelque chose qui m'interroge, c'est la question des investissements du départ. Combien est-ce qu'ils ont été très importants et comment tu le vis le fait aussi de se dire il faut d'abord investir avant qu'il puisse y avoir un retour sur investissement, sur les stocks, etc. Ça t'a fait quoi?
Merci pour la question. Effectivement, je me dis que c'est un mini sacrifice quelque part, parce que tout cet argent que moi j'ai aujourd'hui, que j'investis dans le stock notamment, alors il vient de mes économies, mais surtout il vient de ce qu'on appelle la love money, donc de ma maman qui m'a donné, qui m'a prêté de l'argent. Et donc je me dis que c'est vraiment un sacrifice pour elle et pour moi, et que du coup je vais faire en sorte que cet investissement-là fonctionne et que ça porte ses fruits, en fait. Mais pour moi, c'est pas perdu. Je sais que même si, par malheur, ça ne fonctionne pas, j'aurais quand même tenté, j'aurais vécu ce rêve pleinement et j'aurais pas de regrets.
Oh, c'est beau.
Merci. C'est beau, ouais. Merci. Ce parcours entrepreneurial n'est jamais facile. Et d'ailleurs, hier matin, j'ai discuté avec une entrepreneuse très aguerrie, à grand succès, qui m'a dit moi, de toute ma vie professionnelle, j'ai jamais vu de business facile. Il y a pas de, c'est jamais évident. Il y a toujours des moments difficiles. Il y a toujours des moments où on se dit je vais jamais faire d'argent. Mais il y en a beaucoup qui fonctionnent. C'est vrai que toi, avant ce projet, tu as été étudiante, salariée. Oui. Donc c'est la première fois que tu rentres dans l'entrepreneuriat. C'est quoi pour toi la plus grosse embûche et le plus gros soleil que tu as vécu pour l'instant dans cette aventure?
La plus grosse embûche, je peux en donner deux peut-être. Donc il y a le côté financier, bien sûr, ça c'est vraiment important. Et la deuxième grosse embûche, ça va être le fait qu'on n'est pas... On n'est pas formé, en fait. On ne naît pas entrepreneur, on le devient, mais c'est vraiment, pour moi en tout cas, ça ne s'apprend pas à l'école, à l'université. C'est quelque chose qu'on découvre petit à petit en pratiquant. Et le plus gros soleil, c'est la liberté. Vraiment, c'est l'un des moteurs pour moi de savoir que je me lève pour faire ce que j'aime vraiment, que je ne réponds qu'à moi et au consommateur, en fait. C'est vraiment différent d'être salarié et de devoir répondre... Alors, en l'occurrence, pour moi, c'était difficile de salarié parce que j'étais dans la fonction publique territoriale. Et que du coup, quand j'avais des comptes à rendre, c'était souvent à des élus qui étaient très âgés, qui étaient hors du temps et qui pensaient plutôt à leur intérêt personnel. Donc...
Tu changes complètement d'univers, là.
Ouais. Et je trouve ça génial, en fait. Je me sens beaucoup plus utile en étant mon propre compte maintenant, même si pour l'instant je ne suis pas rémunérée, mais je sais que c'est bien, j'aime ce que je fais et c'est bien.
Et puis il y a la question, pour partager des choses qui sont assez proches des tiennes, de quand on vit une galère, on sait qu'on l'a consenti, en fait, qu'on a choisi de faire cette voie-là, et que même quand c'est dur, ça fait partie du chemin qu'on a choisi. Alors que quand on vit une galère d'un truc qui nous est imposé, psychologiquement, on se dit... Ah, il y a un truc qui travaille, même si on peut avoir un salaire plus confortable d'ailleurs. Au moins, on se dit, j'ai voulu aller dans cette voie-là, je sais que je suis en train de poursuivre mon rêve, et ça fait partie de l'aventure, quoi.
Oui, c'est ça, ça fait partie du jeu. Et on le supporte beaucoup plus facilement.
Et alors, pour l'instant, dans cette aventure, et notamment avec les personnes que tu côtoies, les clients, les producteurs, les fabricants, c'est quoi ta ou tes meilleures anecdotes? Celle où tu t'es dit, là, je suis libre, je sais pourquoi je fais ça et j'ai envie de continuer à le faire.
Alors, comme ça fait pas longtemps que je me suis lancée, je pense que ça est... ma meilleure anecdote, ça va être surtout la première fois que j'ai eu un client qui n'était pas ma famille ou mes voisins ou mon cercle proche. Et je me souviens, donc, j'appelle chacun de mes clients par téléphone avant la livraison et après pour savoir comment ça s'est passé, si tout va bien. Et donc cette première cliente, je me souviens, je lui ai demandé comment elle avait connu le concept de la cigale et la sardine. Elle ne savait même plus répondre. Et du coup, j'étais un peu désemparée. Je ne savais plus trop quoi lui répondre parce que j'avais passé des jours et des jours à faire de la com, à distribuer des flyers devant le parc Chanot. Et en fait, j'avais l'impression que ses efforts étaient vains. Mais en même temps, ça rapportait quand même quelque chose, mais je ne savais pas d'où en fait. Enfin, c'est pas une très bonne anecdote, mais voilà, c'est mais un
c'est,
moment.
C'est la retombée de ton travail, quoi.
Ouais, moi, j'avais une question. Je sais pas si c'est une donnée confidentielle, mais j'aurais aimé savoir combien de clients tu as à ce jour, ou bien est-ce que ce sont, enfin, ou alors un nombre de commandes par jour. Je sais pas ce que tu as le droit de dire ou pas. En même temps, tu es ta propre patronne.
Oui, voilà, exactement.
Tu as la liberté de le dire ou non.
Exactement, tu vois, en tant que salarié, j'aurais pas eu le droit peut-être, mais là je peux le dire du coup. Alors j'ai pas compté, j'en ai. Alors la semaine dernière c'était un peu catastrophique étant donné qu'il y avait des fériés tout le temps, mais sinon globalement j'ai 3 commandes par semaine, hors famille, amis, copains de karaté et tout ça.
Ouais, des nouvelles personnes que tu ne connais pas.
Ouais, voilà.
Et est-ce que
ou
tu...
des gens qui reviennent.
C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça doit être hyper important pour toi comme indicateur de voir si les personnes commandent et recommandent, parce que c'est gage aussi qu'ils sont satisfaits du service, satisfaits des produits et ils se sont régalés. Ils ont envie de réitérer l'expérience.
Ouais, je commence à en avoir un petit peu qui reviennent et moi j'avoue qu'en fait au début je m'attendais pas. C'est un peu comme si je comprenais pas ce qui se passait en fait. Je m'étais dit oh là là mais pourquoi ils font ça, pourquoi ils reviennent ces gens, c'est si bien que ça mon truc. Mais en fait ça fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui adhèrent vraiment à ce projet et qui soutiennent. Voilà.
Moi, j'ai une question en matière de coopération. Est-ce que les autres supermarchés engagés, tu les vois comme des concurrents, ou est-ce qu'il peut y avoir une espèce aussi de se renvoyer la balle ? À titre personnel, je suis investi au Super Cafouche.
Oui, moi, je suis adhérente aussi.
Voilà. Et ce matin j'ai eu les courses les plus chères de toute ma vie parce que je rentre du chemin de Saint-Jacques où j'avais plus rien à manger chez moi. Et par exemple le Super Cafouche, est-ce que ça va être ton concurrent de se dire en fait on est sur la même cible de personnes engagées sur le territoire de Marseille, ou est-ce que en fait il y a vraiment un côté du on n'a pas tout à fait le même ciblage et ils peuvent m'aider, je peux les aider parce que de toute façon toi t'es en ligne, eux ils sont sur place sur un endroit précis. Comment tu vois les choses, par exemple, par rapport à eux, mais par rapport à d'autres aussi?
Alors, je pense pas qu'on soit vraiment concurrents. C'est un peu compliqué, effectivement. En fait, au début, effectivement, je prenais tout le monde pour des concurrents, même Lidl. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais c'est dit, tant pis. Mais en fait, avec le recul et en apprenant le métier d'entrepreneur, je me suis rendu compte qu'en fait, plus il y avait de concurrents, en tout cas de personnes, d'entreprises qui font le même, à peu près la même chose que moi, bah mieux c'était. Notamment là pour tout ce qui est zéro déchet, plus de commerces se mettront au zéro déchet, plus le combat sera gagné en fait. Parce que l'un de mes objectifs, mais je pense que je suis prétentieuse en disant ça, mais en fait je me dis que si plusieurs solutions comme la mienne existent, et bien peut-être que l'agroalimentaire va complètement changer et ne plus jamais mettre de plastique. En fait pour moi les choses doivent bouger grâce à nous. Donc du coup... c'est un peu comme ça. Et pour revenir au Super Cafouche, en fait, je pense qu'à terme, j'essaierai même de faire des sortes de partenariats avec eux. Parce que j'ai adhéré il n'y a pas hyper longtemps, et donc je n'ai pas forcément le temps en ce moment de m'y rendre. Mais je sais qu'ils ont une commission zéro déchet qui essaye petit à petit de faire bouger les choses et tout ça. Et je suis en lien avec eux parce que je fais partie de Zero Waste Marseille aussi. Et en fait, pour moi, j'aimerais bien travailler conjointement avec eux plutôt que frontalement.
Très bien. Zero Waste Marseille, Super Cafouche qu'on a reçu aussi sur ces émissions. Donc s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent savoir ce que sont ces initiatives, n'hésitez pas. Lucille, je vois qu'il est 35.
Il est l'heure de la pause musicale. Qu'est-ce que tu as choisi, Mélissa ?
Alors, j'ai choisi un titre de Julien Doré qui s'appelle WAF, parce que c'est la boma du chien. Parce qu'en fait, Julien Doré, alors je ne le prends pas comme exemple, mais j'aime beaucoup le personnage parce qu'il est du Sud, certes, mais je trouve qu'il peut parler d'archéologie, j'allais dire. Il peut parler d'écologie, de protection de l'environnement de manière simple et humoristique. Et moi, c'est ce que je veux essayer de faire, en fait, d'interpeller les gens, pas frontalement, mais ni moralement, mais de manière simple et sympa.
Et on revient juste après la pause musicale.
La terre est plate, que les rêves n'existent pas, que les pingouins s'acclimatent fort bien au nouveau climat. Ils te disent que c'est ta faute si tout s'était éteint pour toi, mais y a bien des étoiles mortes que je vois briller là-bas.
Voilà, de retour sur Radio Galère 88.4 FM et l'émission Écoforum et la forêt des possibles. On reçoit pendant encore 15 minutes Mélissa, tu es fondatrice et gérante de La Cigale et la Sardine. Tu es un supermarché qui livre à domicile et en point de collecte de l'alimentation et des produits de supermarché sans emballage plastique et le plus possible bio et locaux.
Exactement. On a oublié de dire aussi, c'est important, mais il y a un système de consignes. Voilà, pour l'instant, je le fais seul en interne, mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien travailler avec les prestataires marseillais.
Bien, si vous êtes prestataire marseillais de la consigne, contactez Mélissa depuis son très beau et efficace, facile site internet. Alors, tu nous as dit juste avant que tu avais choisi cette chanson de Julien Doré parce qu'il est capable de parler d'écologie en étant en même temps drôle et sympa et qu'en fait, c'est un peu ce que tu as envie de faire avec ton projet. Donc moi, il y a plein de façons de contribuer au monde, de vouloir sauver le monde, de travailler pour l'intérêt général. Toi, tu as choisi l'alimentation et tu as choisi un commerce. Pourquoi ?
Alors, parce qu'en fait, ça me semblait être la chose la plus accessible à tous, parce qu'on a tous besoin de manger, tout simplement. C'est vrai qu'avant de choisir l'alimentation, j'étais partie sur des projets de recyclage, etc. Mais déjà, je n'avais pas forcément les compétences et pas forcément l'envie non plus de regarder ça. Alors qu'en allant vers l'alimentaire, je me suis dit que je pouvais faire des tas de choses. Montrer qu'en fait c'était facile de consommer mieux, autrement, de manière plus durable, que ça pouvait être accessible à plus de gens. Et pour moi, en fait, c'est par l'alimentation, par l'action de chacun chaque jour que j'estime qu'on peut changer un peu les choses.
Mmh. Et donc tu as parlé de justement rendre accessible cette alimentation saine et durable. L'accessibilité, elle se fait pour toi par le côté la livraison, c'est facile, ton site internet, il est facile. Et il y a aussi forcément la question du prix. Comment est-ce que tu gères ce gros sujet-là ?
Alors, j'essaie de tirer les prix le plus possible vers le bas, en tout cas pour ma marge à moi. Parce qu'il faut savoir qu'un truc que je refuse de faire, c'est de négocier avec les agriculteurs, les maraîchers. En fait, je peux négocier avec une grande entreprise. Qui est installée parce qu'elle en a les moyens certainement, mais jamais avec un petit producteur, c'est eux qui fixent les prix. Et donc pour obtenir des tarifs plus intéressants, je sélectionne les agriculteurs notamment. J'essaie à chaque fois, en fait, pour chaque produit, d'avoir 2-3 références différentes. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le cas, mais petit à petit c'est ce que j'essaie de faire, pour permettre en fait d'avoir différents goûts bien sûr, mais surtout différentes gammes de prix. Depuis les prix d'épicerie fine pour ceux qui peuvent se le permettre, mais aussi des prix beaucoup plus abordables. Et voilà, mais comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est aussi de ne pas faire des marges de folie et de faire quelque chose qui me permette de vivre quand même à terme.
Et alors il y a une question, c'est pour faire du grand public, comment est-ce que tu arrives à convaincre les esprits de personnes qui ont l'habitude de se dire j'ai une famille nombreuse, il y a un seul frigo. Je dois courir dans tous les sens, je suis, mère célibataire avec 3 enfants à charge, je dois acheter pour les 10 jours à venir et donc je ne peux pas me permettre de faire du sans déchets.
Alors, souvent en fait, on se dit que le vrac est moins cher que le supermarché, mais c'est vrai, tout simplement. En prenant les produits locaux que j'ai sélectionnés, souvent, je m'aperçois que les prix sont moins chers que certains concurrents qui font du drive, qui sont notamment dans le 11e arrondissement, pas très loin de chez moi. Parce que je me base beaucoup en fait sur les prix de mes concurrents. J'en ai 2-3 qui sont soit spécialisés dans la livraison, soit dans le bio, soit dans le drive. Et j'essaie toujours d'être au pire à leur niveau de prix et au mieux en dessous. Pour le bio, par exemple, souvent, c'est moins cher que certains concurrents non bio. Ça, et puis après petit à petit je vais également mettre en place des plus gros packaging pour que ça revienne peut-être moins cher, par exemple la farine l'acheter en vrac la quantité qu'on veut, mais aussi en gros conditionnement.
Parce qu'il y a la question du prix, mais après il y a aussi la question des, tu préparais l'émission, il y a un concept qu'on aime bien dans La Forêt Possible, c'est les herbes folles, donc en fait c'est des pensées limitantes. On peut avoir quelque chose de psychologique de se dire ok, en fait le prix c'est plus simple. Mais je sais pas, je suis bloqué parce que en fait, il y a pas de plastique, donc c'est une galère. Je sais pas où est-ce que je vais pouvoir stocker le truc, etc. Comment est-ce que tu arrives à surpasser un certain nombre de blocages psychologiques ou en tout cas, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu préconises idéalement pour le faire ?
Alors, tu as complètement raison et c'est vrai que souvent je suis confrontée à des personnes, même de mon entourage, pas citer mon beau-père, qui sont très sceptiques justement. Qui comprennent pas trop au début le principe. Mais en fait, pour revenir à mon beau-père, je me suis aperçue que maintenant qu'il a testé les produits, un, il se rend compte que c'est pas forcément plus cher. Deux, c'est meilleur parce que c'est des produits vraiment qualitatifs et locaux. Et ensuite, vu qu'il est livré à la maison, c'est pas compliqué. Et puis, il faut savoir aussi que donc il y a le système de consigne, comme je disais. Mais en fait, c'est pas si encombrant puisque à la livraison suivante, par exemple, ou alors si vous voulez le faire avant, c'est possible aussi. Nous, on récupère les bocaux. Donc en fait, c'est pas contraignant non plus de ce point de vue-là pour avoir du stockage de X bocaux à la maison.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de noter, quoi. C'est que finalement, tout le monde est gagnant, j'ai l'impression, quand tu expliques ça.
J'espère, en tout cas. C'est le but.
Et puis, on dirait que du coup, tu marches vraiment par capillarité de comportement pour toucher les gens. C'est-à-dire que ton beau-père, pour l'exemple, lui, il ne se serait pas mis au vrac tout seul. Mais toi, tu l'as fait. Et puis, ta mère te soutient. Et du coup, en fait, lui qui vit avec finit par s'y mettre. Et puis, un jour, peut-être qu'il sera... au café avec un ami et lui en parlera. Et donc, c'est le côté... chaque fois qu'une personne incarne une valeur par sa consommation, c'est un tout petit effet, un tout petit impact. Mais en fait, c'est la seule façon de toucher les gens un par un et puis de finir par avoir des vagues entières, un territoire, une ville, un pays entier.
En tout cas, c'est la tactique que j'aborde parce que je me suis rendu compte dans mes précédentes vies qu'en allant en frontal, ça ne marchait jamais. Donc je me suis dit cette fois-ci, l'enjeu est beaucoup plus important que tout le reste, donc petit à petit, l'effet colibri va marcher.
Et par rapport à ça, un des éléments qui arrive à convaincre, c'est souvent d'incarner ou de personnaliser les choses. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets de vrac, de choses qu'on peut facilement remplacer pour qu'on se dise « Ah mais oui, c'est ça qui peut être remplacé dans ma cuisine, dans mon salon, dans mon frigo, dans mon placard ?»
Alors, je vais aller vers un truc assez simple, mais tout ce qui est biscuits apéritifs, en fait. Souvent, on va au supermarché acheter un paquet de 100 grammes de bretzel ou autre. Mais en fait, il faut savoir que, en vrac, on peut trouver ce genre de produit, fait en France, pas de manière industrielle, pour un prix identique et dans des bocaux en verre. Et voilà.
C'est vrai que j'y ai pensé la dernière fois, j'ai acheté des chips et je me suis rendu compte que le quart du paquet de chips était rempli.
Oui, alors les chips, par contre, c'est une solution qui n'existe pas encore en vrac, sinon ça serait en miettes. Mais effectivement, pour l'instant, on ne trouve pas tous les produits. Mais voilà, comme je disais, tu peux avoir des bretzels, des cacahuètes, tout plein de choses qu'on a l'habitude de consommer, mais différemment.
Et sur les questions de la lessive et des produits d'entretien aussi, peut-être ?
Oui, la lessive, donc soit en liquide, soit en solide, même les tablettes lave-vaisselle, il y a plein de choses en fait qu'on peut trouver vraiment avec aucun plastique. Et pour la petite histoire, moi du coup les produits liquides de cosmétiques et d'entretien, je les conditionne dans des bouteilles en verre pour éviter justement un plastique même réutilisable, mais vraiment pour jouer la carte du zéro déchet à fond.
Qui sont ensuite donc consignées ces bouteilles en verre.
Exactement.
Voilà. Et alors pour revenir à ce que tu disais qu'avant t'étais beaucoup dans le frontal et ça marchait pas et peut-être que tu le vivais un peu mal et moi j'ai eu l'impression, c'est quelque chose que t'as écrit... j'ai l'impression qu'en montrant du positif, donc en proposant du sans plastique, du local et du vélo, etc., paradoxe, tu montres l'absurdité de ce que c'est aujourd'hui la consommation.
Oui, exactement. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile en fait, de convaincre les gens en montrant un peu ce qui est possible de faire facilement plutôt qu'en leur imposant une façon de vivre.
Et alors, le supermarché de tes rêves, c'est quoi ? Ou l'alimentation, ou la façon d'acheter son alimentation ?
Eh bien, je pense que c'est de trouver vraiment encore plus de produits que ce que je peux proposer aujourd'hui. En fait, à terme, j'aimerais même, si possible, avoir un rayon boucherie sans papier... Tu sais, parce qu'aujourd'hui, même si tu vas chez ton boucher, à moins de porter ton Tupperware, t'as toujours ce papier avec une partie en papier et une partie en plastique qui donc n'est pas recyclable. Et moi, j'aimerais bien qu'on trouve des solutions pour changer ça. Même le fromage, par exemple, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir le conserver autrement qu'avec un plastique. J'aimerais qu'un jour, quelqu'un trouve une solution pour que dans le supermarché, il n'y ait plus ce problème-là.
Et alors, quid, est-ce que, encore mieux, on peut aussi réduire la viande ? Comme ça, on a les deux problèmes sauvés en même temps.
Oui, c'est possible aussi, effectivement. D'ailleurs, j'ai très peu de viande dans mon supermarché.
J'allais dire viande sans déchets avec modération. En tout cas, pour moi, c'est le choix que je décide d'incarner. Et puis moi, je voulais rebondir, parler d'un sujet plus ou moins d'actu sur le rêve de comment est-ce qu'on se procure de l'alimentation. Je voulais parler de, je ne sais pas si vous avez entendu, chers auditeurs et chers auditrices, parler de la sécurité sociale alimentaire. C'est un projet qui est en cours de test dans certaines villes, notamment Montpellier, et qui est en fait de dire, en France, on a la carte vitale qui nous permet d'aller chez le médecin et de ne pas payer. Et ça nous permet d'être en bonne santé, mais en fait avant ça, pour être en bonne santé, il faut aussi pouvoir se nourrir et bien se nourrir. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une sorte de carte vitale alimentaire qui nous permettrait d'aller au supermarché ou alors dans certains magasins choisis, etc., pour acheter des produits qui sont bons pour la planète, pour les agriculteurs et pour notre santé, comme ce que tu proposes, et qui en plus permettrait que ce que ça nous coûte dépend d'un système solidaire où ceux qui ont plus d'argent participent plus que ceux qui en ont moins.
Ouais, je trouve que ce serait vraiment une bonne idée de tester ce genre de choses, en fait, même pour un commerce en ligne, parce que ça permettrait, comme tu dis, que chacun puisse se nourrir comme il faut, en fait, et que chacun puisse être... comment dire ça ? En fait, que l'idée, c'est de faire de la prévention, en fait, plutôt que de devoir encore une fois trouver un soin palliatif une fois que tout est fini, que c'est trop tard.
Et ça nous rappelle que souvent trouver une solution écologique, c'est aussi peut-être une solution économique et surtout une solution à sa santé. Je te pose une dernière question, la question signature de cette émission, question surprise. Pour toi, on a sauvé le monde, on est en 2030, Marseille ressemble à quoi ?
Bon, je ne veux pas être pessimiste, mais 2030, c'est demain, hein, donc on va peut-être un peu plus tard.
2034 ?
Ouais, voilà, peut-être 2034. Marseille, c'est une ville complètement végétalisée, dans laquelle il n'y a quasiment plus de voitures, dans laquelle les gens sont détendus, cool, et il fait bon vivre parce qu'il ne fait pas chaud finalement, parce que la canicule n'a pas pu arriver jusqu'à nous, puisqu'on a des végétaux partout. Et où il n'y a plus de frontières aussi clivantes entre les quartiers nord et le reste des quartiers de Marseille.
Et toi, t'as quelle place là-dedans ? Pour être à ta juste place dans ce monde-là ?
Moi, je serais contente d'avoir participé à supprimer le plastique, notamment, à supprimer aussi beaucoup l'utilisation des voitures. Et je pense qu'en fait... 2034, on a dit ? Oh non, c'est trop tôt pour la retraite. Je pense que c'est pas possible.
Donc, remplacer les places de parking par des arbres. On arrive à la fin de cette émission. La semaine prochaine, Marin, on reçoit qui ?
Je ne sais pas.
Alors, moi, j'ai noté, tu vas me dire si je ne me trompe pas, Stéphane Crandall, qui travaille pour le réseau des parcs naturels régionaux de PACA et qui, il me semble, pilote un nouveau parcours d'éco-solutions.
Oui. Je vérifie en même temps quand nous parlons.
Et pendant ce temps, est-ce que tu as un dernier mot, Mélissa ?
Juste merci beaucoup. C'était vraiment super cool. J'étais à peu près détendue. Et merci beaucoup pour ta première belle émission.
Merci. Merci beaucoup à toi. Merci à la régie. Merci Marin. Et au public qui est derrière nous, nombreux.
Et je confirme que c'est bien Stéphane Crandall que nous recevons la semaine prochaine pour parler des éco-solutions avec le parc naturel des Calanques.
À la même heure, à 19h, sur Radio Calaire 88.4 FM.
Et bravo à toi Lucille pour cette toute première émission en chef qui en annonce beaucoup d'autres. Et merci en régie.
Merci à vous. Bravo Lucille pour cette première émission. Et merci beaucoup Mélissa pour ta venue.
Merci.
Bravo à toutes les deux et bravo Marin aussi.
Bonne soirée, à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Belle soirée.
C'est mon truc, c'est ça.